Seigneur, nous voulons te remercier pour pouvoir nous réunir ici librement ce matin. Seigneur, nous sommes ici pour écouter ta parole, écouter ce que tu as à dire à chacun. Seigneur, donne-nous des cœurs ouverts et des cœurs débarrassés de tout souci pour pouvoir t'écouter pleinement. Te remercions dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Pour nous préparer au repas du Seigneur, je propose qu'on relise le texte que l'on prend habituellement dans 1 Corinthiens 11. 23-26, ensuite on lira Éphésiens 2-8. Donc déjà 1 Corinthiens 11, 23-26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et puis on peut prendre les versets donc d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8, un verset qui est bien connu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et donc dans le texte de Corinthiens, au verset 26, on a lu que l'on prend le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, semaine après semaine, nous rappelons que le Seigneur est venu verser son sang, s'offrir en sacrifice pour nous apporter la vie et puis la réconciliation avec Dieu. Et le Seigneur, pour l'instant, n'est pas encore venu, c'est toujours le temps de la grâce. Le temps presse, on sait, le Seigneur est à la porte. Et dans Hébreux 4, verset 7, je vous lis le verset, il est dit, « Dieu fixe de nouveau un jour en disant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et le repas du Seigneur, c'est pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants, un rappel solennel du prix que le Seigneur a payé pour nous offrir son pardon, le pardon des péchés, et puis un salut éternel, un salut qui est offert à chacun, sans exception, c'est un choix personnel, puisque Dieu ne force, on ne sait, personne. Déjà à son peuple, il disait, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Il y avait un choix. « Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives, que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. » Donc le Seigneur avait placé déjà un choix, mais on est aussi chacun devant un choix. Et dans ce texte d'Éphésiens 2, verset 8, on a lu, il a été rappelé, nous avons été sauvés par grâce, par pure grâce, c'est le don de Dieu. On a déjà souvent rappelé que la grâce, c'est ce qu'on accorde à quelqu'un sans, pas pour lui être agréable, c'est simplement un don qui n'est pas dû. Un don volontaire, où il n'y a pas de contrainte, pas d'obligation, le Seigneur s'est offert lui-même. C'est ce qu'il nous a rappelé en Luc 22, 19, on lit parfois ce texte. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, c'est un don. » Et le Seigneur nous demande de nous souvenir de ce don fait volontairement. La grâce, on l'a souvent dit aussi, elle est imméritée. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, on connaît bien ces textes de Romains. Romains 3, 23, et puis le verset 10 aussi, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Et l'homme pécheur n'a rien à présenter devant Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et une grâce, ça ne dépend pas de nous. La grâce, elle vient de celui qui fait grâce. Beaucoup aimeraient faire des choses pour Dieu. On peut faire le tour de toutes les religions, les croyances. Inimaginable ce que les hommes ont pu essayer de faire pour plaire à Dieu. Mais l'évangile que le Seigneur nous donne, c'est tout le contraire. L'homme est hors jeu et tout vient de Dieu. Et dans Romains 9, il nous est dit, « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul, Dieu qui fait miséricorde. » Et il disait à son peuple d'Israël, « Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et une caractéristique de la grâce, c'est qu'elle n'attend rien en retour. Et que donnerions-nous pour en retour du salut ? Que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Et le verset continue en disant, « Que donnerait un homme en échange de son âme ? » Donc la grâce pour chacun, elle est gratuite, elle est imméritée. Et ce matin, alors qu'on va partager le pain, le vin, le Seigneur nous invite à considérer ce don qu'il nous offre. On peut accepter la grâce de Dieu, avec tout ce qu'elle renferme, bien sûr, pas juste le salut, ou rester en arrière. Et Dieu nous accueille gratuitement, sans rien demander en retour. Et quelle ne devrait pas être normalement notre reconnaissance, notre gratitude? C'est bien plus que si j'avais pu acheter mon salut par un moyen quelconque. Et que le Seigneur nous fasse la grâce cette semaine de faire nôtre cette exhortation de Paul qui écrit aux Colossiens au chapitre 3, verset 1 et verset 15, je vous les lis. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Et soyez reconnaissants. Cherchez les choses d'en haut. La paix en découle, la paix de Christ. Le Seigneur nous invite à en être reconnaissants. Et rechercher les choses d'en haut, eh bien, ça devrait être normalement la préoccupation normale, naturelle de tout chrétien. Je dis ça devrait, parce qu'on peut se poser, je me pose la question, est-ce qu'il en est toujours ainsi dans ma vie? Est-ce qu'on a toujours un cœur à cœur de plaire au Seigneur en toutes choses? Désirer lui obéir, être reconnu comme chrétien à travers notre attitude, nos paroles qui rendent témoignage de notre vie. Et si c'est ainsi, le Seigneur pourra nous employer à son service dans des circonstances de la vie qui sont ce qu'elles sont. Hier, j'avais des amis chrétiens sur Besançon qui étaient de passage. Nous sommes allés manger dans un restaurant. Je ne sais pas sur les circonstances qui nous ont amenés dans ce restaurant, mais il était tenu par un chrétien d'origine musulmane, converti il y a très peu de temps. Et en discutant, il nous a parlé de l'évangélisation, des choses comme ça. Et lui a pris l'habitude, après son service, de lire sa Bible. Mais il est dans la salle, il ne va pas se cacher dans l'arrière-boutique. Et il lit sa Bible vers les côtés des clients. Et comme Paul, il peut dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et le Seigneur bénit cette attitude simple, d'humilité, empreinte de simplicité. Et il nous a rendu témoignage que bien des clients, qui n'étaient pas du tout venus pour ça, ont pu parler avec, prier avec, décharger leur cœur. Et voilà, un témoignage tout simple, simplement, parce qu'il met le Seigneur à la première place et voilà, et il vit sa foi tout naturellement devant les clients qui viennent dans son restaurant. C'était un exemple que j'ai trouvé intéressant. Plaire à Dieu d'abord et rechercher les choses d'en haut. Alors, on va finir avec le verset de 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et Paul pouvait conclure, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et alors que l'on va partager la scène, nous souvenons que la grâce de Dieu nous a accordé. On va souvenir de ce que la grâce de Dieu nous a accordé, des bénéfices de son sacrifice, et puis soyons désireux que cette grâce ne soit pas vaine dans nos vies, puis qu'elle puisse aussi être agissante pour porter des fruits qui glorifient le Seigneur. On va prier. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que qu'aurions-nous pu apporter, Seigneur? Tout est par grâce, et nous n'avions rien en retour. Nous pouvons juste remercier d'être venu, d'avoir offert ta vie pour nous offrir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Nous te demandons, Seigneur, je te demande pour moi que cette grâce ne soit pas vaine, mais voilà, que tu puisses la faire grandir, qu'elle puisse s'exprimer dans nos vies et qu'elle porte des fruits à ta gloire, Seigneur. Nous te disons notre reconnaissance ce matin. Amen.
Vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, on ne va pas parler des mamans, on va parler des enfants aujourd'hui. Devons-nous être comme de petits enfants ? Vaste question. Alors je sais que certains parmi nous ont un âge relativement avancé, mais on dit aussi qu'avec l'âge, on retombe en enfance. Est-ce que nous devons être comme de petits enfants? Nous allons ce matin étudier les pour et les contre de retourner en enfance. Jésus a été très clair sur le sujet, et je pense que nous avons tous en tête les instructions qu'il a données, ces textes où il dit que nous devons devenir comme de petits enfants. Prenons-en quelques-uns. Tout d'abord, Matthieu 18, les 5 premiers versets. Matthieu 18, 1 à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et il réitère juste dans le chapitre suivant. Donc Matthieu 19, et nous lirons les versets 13 à 15. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit : Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Jésus est très clair. Il dit : Vous devez devenir comme de petits enfants. Pierre donne quelques précisions sur cela. 1 Pierre 2, les versets 1 et 2. 1 Pierre 2, 1 et 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pierre précise que ce qu'il faut imiter, ce sont les nouveau-nés. Il est plus précis encore que Jésus. Et ce qu'il faut imiter chez eux, c'est leur désir de lait spirituel. Il a bien dit spirituel. Il n'a pas dit virtuel. C'est-à-dire qu'il faut bien cultiver ce désir spirituel et pas le simuler. David, quant à lui, il va un peu plus loin et il décrit l'étape suivante. L'étape suivante, nous la trouvons au psaume 131, les deux premiers versets. Psaume 131, versets 1 et 2. Cantique des degrés de David, éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Ici, l'enfant n'est plus au lait, mais il est sevré. Il ne désire plus le lait spirituel, il est passé à l'étape suivante. Je vous raconte deux petites histoires. Vous savez, j'aime bien les petites histoires. Alors, l'une des petites histoires, c'est une maman qui va, un dimanche matin, essayer de réveiller son fils. Elle va lui dire : Mais lève-toi, on doit aller à l'église ce matin. Elle n'a pour toute réponse qu'un grommellement. Elle revient quelques minutes plus tard et elle lui dit : Mais tu vas plus avoir le temps de prendre ton petit déjeuner, lève-toi, on va être en retard. Elle a de nouveau un grommellement comme réponse. Elle revient encore quelques minutes plus tard et comme réponse, cette fois-ci, elle a : Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Ce à quoi elle répond : Mais enfin, c'est toi le pasteur ? Enfant, encore relé, n'ayant pas grandi. N'ayant pas été sevré. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais la deuxième, elle est vraie. C'est un couple qui doit déménager. Et puis, ce couple qui doit déménager, il y a la famille qui vient donner un coup de main. Les parents de madame, même les grands-parents de madame, viennent pour déplacer les cartons. Et pendant que ces personnes, pour certaines un peu âgées, ayant des difficultés à porter des charges lourdes, s'occupent à déplacer les cartons et à remplir le camion, que fait monsieur ? Eh bien, monsieur, il est en train de jouer aux jeux vidéo avec son beau-frère. Histoire vraie. Histoire de manque de maturité. Faut-il rester des enfants ? Devons-nous devenir des enfants ? Ça semble finalement pas si évident que ça. Et il y a effectivement des textes bibliques qui ne vont pas dans le sens de nous dire que nous devons être des enfants. Prenons un texte dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 4, je vous lis le verset 22. Jérémie 4, 22. Le prophète ici retransmet les paroles de l'Éternel. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. On n'est plus du tout dans le thème de l'enfant qui a une soif spirituelle, mais au contraire, dans le thème de l'enfant qui est sans intelligence. Mais Jérémie n'est pas le seul à nous mettre en garde contre le fait de rester en enfance. Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, chapitre que nous connaissons bien, Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ne plus être des enfants ballottés à tout vent de doctrine. L'objectif est de ne plus être des enfants. Mais quel est le moyen ? Là encore, c'est très clair. Afin que nous croissions à tous égards. C'est aussi ce que nous disait Pierre. L'objectif est la croissance. Je vous raconte encore une autre petite histoire. C'est dans une église où il y avait un journal avec des articles et puis il y avait les sujets de prière. Et parmi les sujets de prière, il était noté qu'il fallait prier pour la croissance de l'église en nombre et en quantité. C'était un lapsus révélateur. Effectivement, une église doit croître en nombre, mais aussi en maturité spirituelle. L'objectif, c'est la croissance. L'Épître aux Hébreux nous met également en garde contre les risques de rester des enfants. Hébreux 5, à partir du verset 12 jusqu'au premier verset du chapitre 6, Hébreux 5, 12 à 6, 1. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Il est un peu compliqué le verset 1 du chapitre 6. Je vais vous le lire dans la traduction Summer 2000. C'est plus clair. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser des fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. Nous devons être des adultes. Et c'est aussi le parcours qu'a vécu l'apôtre Paul. Il était un enfant, il est devenu un adulte. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quand Jésus parle à la foule, à qui s'adresse-t-il dans les premiers versets que nous avons lus? Quand Jésus parle à la foule, il s'adresse à des gens qui ne sont pas chrétiens, à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et il faut qu'ils passent par la conversion pour devenir des enfants spirituels. Jésus s'adresse à des gens qui doivent devenir des enfants parce que pour l'instant, ils sont morts spirituellement. Mais ce n'est qu'une étape. Bien sûr, la conversion, elle est primordiale. Et c'est par cela qu'il faut commencer, devenir des enfants. Mais il est aussi indispensable de ne pas en rester là. Les Corinthiens avaient des problèmes de maturité spirituelle. Alors je précise tout de suite, on n'est pas là pour les juger. Dieu gérera la situation lui-même, ce n'est pas à nous de faire ça. Regardons-nous plutôt dans un miroir, c'est plutôt à ça que nous sommes invités. Et là, prenons donc 1 Corinthiens 3, les versets 1 et 2. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Les Corinthiens avaient été enseignés et pourtant n'avaient pas réussi à grandir et continuer à avoir besoin d'être enseignés avec des enseignements qui sont comme du lait spirituel et non de la nourriture solide. Alors finalement, est-ce que nous devons être comme des enfants? Alors pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, la réponse est parfaitement claire, c'est bien par là qu'il faut passer. Il faut passer par là afin de pouvoir ensuite grandir spirituellement. La première étape, effectivement, est de naître de nouveau et de devenir des enfants spirituels. Pour nous, ayant une vie spirituelle de plus d'années, eh bien, il nous faut être des adultes. Et je dis de plus d'années, ce n'est pas forcément les années qui comptent. Encore une petite histoire. J'ai rencontré une dame physiquement déjà âgée, elle avait plus de 80 ans, et puis elle a été enseignée, elle a compris l'enseignement biblique qu'elle a reçu, et puis elle s'est convertie, et puis elle a eu de la croissance, une croissance rapide de quelques mois pour devenir quelqu'un de spirituellement mature, plus mature que la plupart des membres de l'assemblée où elle était. Alors chacun croit à sa propre vitesse, mais je dois vous dire que cette personne a été pour moi un grand encouragement par la vitesse de sa croissance, la solidité de la foi qu'elle avait en Dieu. Nous devrions être des adultes. Alors comme pour les Corinthiens, ce n'est pas à chacun de nous de regarder à son voisin. On n'est pas là pour ça. Nous avons à utiliser un miroir pour nous examiner nous-mêmes. Et comme le dit Jacques, le miroir, dans ce cas-là, c'est la parole. Encore faut-il, après avoir lu la parole et avoir reçu son enseignement, ne pas l'oublier comme si nous ne l'avions pas lu. À chacun de s'examiner à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de la Bible, et de tenir compte et de mettre en pratique le résultat de cet examen. Alors il y a un petit indice dans tout ce que l'on a lu, quelque chose qui peut nous aider à réfléchir. Quelle est notre soif spirituelle ? Quelle est notre soif spirituelle ? Est-ce que nous attendons avec impatience notre prochaine lecture de la Bible ? Notre prochain moment de prière ? Est-ce que nous attendons notre prochaine communion fraternelle ? Notre prochain moment de scène ? Vous l'aurez remarqué, j'ai cité implicitement Acte 2:42 que nous lisons régulièrement. Je ne peux pas répondre à votre place et vous ne pouvez pas répondre à la mienne. C'est à chacun de s'examiner soi-même. Seigneur, tu sais, toi, ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu sais quel est l'attachement que nous avons à toi, quelle est notre soif spirituelle, quelle est notre maturité. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour croître, pour avancer, pour être toujours en mesure de recevoir des enseignements de ta part qui sont plus solides, avoir un attachement à toi qui soit plus ferme. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à notre propre croissance. Seigneur, donne-nous aussi d'accepter les chemins par lesquels tu veux nous faire passer pour cette croissance. Seigneur, nous nous confions pleinement à toi et nous avons besoin de toi en toutes choses. Amen.
En écoutant ce que Benjamin vient de nous rappeler, je me posais une question. Est-ce qu'on peut être adulte et avoir un cœur d'enfant ? Ben, un cœur d'enfant, c'est celui qui obéit, qui écoute, parfois sans comprendre, mais qui obéit pour devenir cet adulte, ce fils. Le Seigneur veut faire de nous des fils et des filles. C'est qu'on n'en reste pas au lait, mais et là, c'est la parole comme il nous a été rappelé. Alors, on a un chemin tout tracé.
Seigneur, par ta parole que tu nous as apportée ce matin, tu as touché mon cœur. Tu m'as rappelé que j'en suis encore au lait, que je devrais en être beaucoup plus loin que ça, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour avancer et tu viens à notre secours parce que tu as donné ta vie. Tu es mort sur la croix, mais il y a bien plus que ça. Tu es ressuscité et maintenant tu es au ciel. Et tu ne veux pas nous laisser dans cet état-là. Tu nous fais grandir. Tu veux me faire grandir en toi. Alors toute cette semaine, Seigneur, qui s'ouvre devant nous, que nous puissions repasser ces paroles, les mettre en pratique, réfléchir à tout ça, Seigneur, et te demander de venir, de nous aider à grandir en toi pour te servir, Seigneur. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, à te servir, mais aussi à témoigner, pour que les autres te voient au travers de chacun de nous. Merci, Seigneur. Amen.